Le jeu vidéo fait et défait les liens. 2016, Kelly Sexton, britannique de 41 ans et mère de 4 enfants, a les yeux vissés sur son écran d'ordinateur. Ce jour-là, alors qu'elle déambule dans l'univers de Second Life, elle rencontre, virtuellement, Nick Von Eystein, 30 ans, lui aussi accro à ce jeu en ligne. Les deux avatars se séduisent lors d'une soirée virtuelle. Nick se lance même dans une danse sensuelle pour draguer sa belle. Très vite, le duo passe jusqu'à 20 heures connectés par jour. Ils organisent un mariage virtuel en février 2017, suivi d'un bébé numérique. Kelly annonce à son époux, le vrai, qu'elle veut divorcer. Les amoureux 2.0 se marient dans la vraie vie le 30 décembre 2019. Ils ne se sont plus quittés. Mon invité de ce soir n'a pas trouvé l'amour grâce aux jeux vidéo, mais ce sont les consoles qui lui ont permis de maintenir le lien avec un être aimé, son père. Bonsoir Anthony Passeron.
Bonsoir.
Enseignant en lettres et en histoire géographie en lycée professionnel à Nice, vous avez été propulsé dans le paysage littéraire avec votre premier livre, Les enfants endormis, un récit familial sur le sida. Traduit dans une quinzaine de langues, ce roman a reçu le prix Vepler et a été finaliste du prix du livre Inter. Votre deuxième roman, Jackie, apparaît chez Grasset ce vendredi, raconte la disparition d'un père, le vôtre, à travers une enfance rythmée par les consoles Atari, Nintendo et Sega. Et parce que votre récit, il pétille de nostalgie, Anthony Passeron, on a eu envie de vous présenter en troisième partie la chercheuse Hortense Boulay-Ifrène. Cette média-archéologue explore les ruines de mondes virtuels désertés, mais toujours en ligne. À 18h30, comme tous les soirs, le panorama de la culture, au programme des nouvelles expressions de Jones qui entrent au dictionnaire de Cambridge, une lecture pour ados, du spectacle de rue à foison et un jeu en ligne où l'on devient libraire. Alors dépoussiérez l'Atari, la Sega et les vieilles Game Boy et chauffez vos pouces, le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Constance Villanova.
Avant d'ouvrir votre livre, Anthony Passeron, on va passer un petit moment girly ensemble. C'est le moment tresse de mon œil sur le papier glacé, c'est le moment magazine de filles. J'aimerais savoir quel haussien vous êtes. C'est l'interview haute saison. Anthony Passeron, elle ressemblait à quoi vos vacances quand vous étiez enfant?
Quand j'étais enfant, dans ce petit village de l'arrière-pays, c'était extrêmement restreint, mais en même temps, il y avait une immense liberté. En gros, ça se jouait dans les rues du village, entre la rivière, la piscine municipale et le terrain de foot en bitume. Et c'était un terrain de jeu largement suffisant pour moi.
Donc, 2 mois dans l'arrière-pays niçois chaque été?
Quasiment, à part une excursion chez des oncles et tantes qui m'emmenaient à la mer, mais c'était quand même l'essentiel du temps au village, oui.
C'est quoi l'odeur de l'été pour vous, Anthony Passeron?
C'est quand même l'odeur de la piscine, hein, une sorte de mélange entre,
la
javel, le pédiluve, le monoeil. C'est vraiment ça, ouais, exactement. Là, l'été commence quand il y a ce signe olfactif-là.
De piscine privée ou piscine municipale?
Municipale.
Évidemment.
Évidemment.
Ce que vous détestez en été?
La chaleur, je la supporte de moins en moins. Je
vis pourtant
à Nice,
bah
je suis
oui.
un Niçois, etc. Mais j'avoue, quelque chose ne fonctionne plus dans mon corps.
Votre activité estivale que vous préfériez quand vous étiez ado?
C'était la rivière, faire des barrages dans la rivière, jeter des pierres n'importe où. Ouais, voilà, ça c'était vraiment le but de ma vie en juillet, août. Ouais.
On va plonger dans votre histoire familiale, Anthony Passeron. Mais avant ça, j'avais envie de vous replonger, vous, dans l'été de vos 20 ans, le premier été de liberté. On est en 2003. Le Concorde qui reliait Paris à New York en seulement 3h30 vient de faire son dernier vol. Les adolescentes arborent fièrement leur ras du cou. Et Justin Timberlake se venge de son ex Britney Spears en lui demandant de pleurer une rivière pour ses beaux yeux. Mais il se passe beaucoup d'autres choses. On écoute.
SMS, on dirait le nom d'un virus. Le service des messages courts.
On ne sait jamais si maman passe à côté de ma porte, elle peut très bien écouter ma conversation. Donc c'est vrai que pour ça, le SMS c'est mieux puisque on peut, c'est plus discret.
Pourquoi avez-vous besoin d'un sabre japonais?
J'ai de la vermine à exterminer.
Vous avez sûrement de grosses bestioles à tuer pour avoir recours à Hattori Hanzo.
Très grosses.
Madame, monsieur, bonsoir. Ne me demandez surtout pas quand la fraîcheur revient, on n'en sait rien. Les températures, les voici. Je ne sais pas si on a déjà eu une carte aussi chaude, 41 degrés 8, pour ne pas dire 42 degrés. Attention, ça, ce sont des températures relevées à l'ombre, non pas au soleil.
Je veux juste une dernière danse.
vient d'entendre 50 Cent in Da Club, la folie du SMS en France, un extrait de Kill Bill volume 1 de Quentin Tarantino, évidemment la canicule de 2003, et puis Kyo, dernière danse, qui nous fait encore vibrer. Vous vous souvenez, Anthony Passeron, de l'été de vos 20 ans ?
Oui, très bien. Je travaille au supermarché du village, du lundi au vendredi, et j'essaie d'apprendre la guitare avec Dernière danse de Kyo.
C'est pas vrai.
Avec
c'est
beaucoup
pour ça que
de difficulté.
Vous tenir le cœur.
Ouais,
en fait.
Y a quelque chose qui s'est passé là, je m'y attendais pas. Et j'attends avec avidité le vendredi et le samedi pour me rendre dans les balles des villages alentours.
C'était comment ces balles ?
Bah, c'est vraiment l'archétype du bal populaire avec des gosses qui essayent de chiper des frites et du coca, les ados qui essayent de se séduire et les vieux qui viennent danser un tango. Et c'est tellement resté en moi que même si je ne m'y rends plus depuis des années, je peux vous dire le calendrier des fêtes de village dans l'arrière-pays niçois.
Il y en avait un chaque week-end. Du coup.
Il y en a plusieurs chaque week-end, donc c'est un crève-cœur, il faut faire un choix.
C'est vrai.
Absolument.
Donc, et vous choisissiez, comment vous faisiez votre choix ?
Alors il y avait des balles avec une réputation, et puis il y avait des orchestres qui avaient plus ou moins bonne réputation,
ouais.
Et puis il y avait cette idée que peut-être tel camarade masculin ou féminin serait présent là.
Votre crush en fait.
Exactement, il fallait supplier quelqu'un qui avait le permis de conduire de nous emmener dans tel village.
Vous n'aviez pas le permis ?
Non, je l'ai eu l'année suivante parce que j'étais pas très intéressée. Et par contre, je me souviens qu'il y a beaucoup d'accidents de voiture, ouais, de retour des balles. Donc la seule demande de mes parents, c'était de m'obliger à camper dans un pré pour être sûr qu'il ne m'arrive rien sur la route de retour.
Donc vous étiez autorisée à découcher quoi ?
Complètement, parce que c'était moins dangereux que de rentrer en voiture. Et donc j'ai d'excellents souvenirs de Nuit à la Belle Étoile.
Moi, je vous jalouse là-dessus, je vous le dis. C'était pas le cas à la maison. Avant de parler des coulisses de votre écriture, Anthony Passeron, on reste en 2003. Une jeune musicienne de 20 ans, elle aussi s'apprête à être révélée au public. Je parle bien sûr d'Amy Winehouse sur Stronger Than Me. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort you.
France Inter. Le mag de l'été.
J'avais jusque-là beaucoup écrit des livres sur des choses que je savais, sur le fait de savoir. Par exemple, j'avais parlé dans « Qui a tué mon père » des réformes politiques qui avaient abîmé le corps de mon père. Dans « Monique Sévade », j'ai parlé des sommes d'argent concrètes qui avaient été nécessaires à ma mère pour fuir un homme violent. Là, dans « L'effondrement », il s'agissait de parler de ce que c'est de ne pas savoir. Parce que quand mon frère est mort, je me suis rendu compte que non seulement je savais rien de lui, mais encore plus fondamentalement que je pensais savoir et que je ne savais pas.
L'auteur Édouard Louis pour son livre L'effondrement chez nos confrères de France Culture. Anthony Passeron, dans Les enfants endormis, votre premier roman, vous racontiez l'addiction à l'héroïne de votre oncle et le virus du VIH dont il a été atteint dans la France rurale des années 80. Aujourd'hui, dans Jackie, c'est au tour de votre père. J'ai cru comprendre dans d'autres interviews que Édouard Louis et sa littérature avaient été comme un déclic pour vous lancer.
Oui, en 2014, quand Finir avec Eddie Bellegueule est publié, moi je suis très loin de la littérature contemporaine, je m'y intéresse pour trouver des livres qui seraient capables de secouer mes élèves de lycée professionnel.
Je rappelle que vous êtes prof, oui, en lycée pro.
Et en finir avec Eddie Bellegueule, c'est de l'écriture de soi, c'est quelqu'un qui fuit les milieux populaires parce qu'il en est contraint par une violence sociale, intime. Et je me dis, je vais leur faire lire ça. Et avant de leur faire lire, je le lis moi-même. Et en refermant ce livre, je me dis que ce jeune homme, puisqu'il est beaucoup plus jeune que moi, il vient d'un milieu qui est très différent du mien, géographiquement, socialement, etc. Mais il laisse une porte ouverte derrière lui. Et je referme ce livre en me disant j'ai plein d'histoires à raconter sur le monde social et géographique de mon enfance aussi.
Si vous racontez votre enfance dans ce livre, Anthony Passeron, avec aussi votre frère jumeau, le vrai héros ou même anti-héros du livre, c'est votre père. Pour nos auditeurs qui ne vous ont pas encore lu, qui n'ont pas eu cette chance. Est-ce que vous pouvez nous en faire le portrait ?
Le projet de ce livre, c'était d'écrire un réquisitoire contre ce père qui a eu une sorte de la crise de la quarantaine, qui va commencer par divorcer et se désintéresser progressivement de sa famille à tel point qu'il va abandonner ses deux fils. Et en fait, en l'écrivant, je me suis rendu compte, en le terminant, que j'avais été incapable justement d'écrire un réquisitoire. Je me suis rendu compte que j'avais écrit un hommage. Parce que l'écriture m'a permis peut-être d'essayer de le comprendre davantage que
de
le
juger. Et de le réhabiliter peut-être aussi.
Malgré moi. C'était un père de la classe moyenne, très attaché au travail, dans une petite ville où tout le monde se connaît. C'est pas comme dans une grande ville où si vous êtes au chômage, personne le sait dans votre entourage, etc. Est-ce que lui, il était obsédé par cette idée du travail, d'être quelqu'un de respectable et de pas faire partie de ceux qui se laissent aller. Et il a tout donné à son travail, je pense, jusqu'à l'excès.
Dans ce second livre, vous avez choisi un mode narratif qui est très proche du premier, des enfants endormis, dans lequel vous alternez entre la découverte scientifique du VIH, donc des chapitres un peu historiques et la chute de votre oncle dans l'héroïne. Ici, vous alternez entre les consoles de jeux, l'histoire de trois consoles de jeux et l'histoire intime de votre père. Et c'est marrant parce que vous décriviez votre premier roman comme un livre de prof. Il y a vraiment une alternance entre ces chapitres très explicatifs et ces chapitres intimes. Pourquoi avoir reproduit ce mode narratif-là?
Parce que je reste un prof jusqu'au bout et il y a ce truc, quand j'écris, je pense toujours à mon lecteur et comme un prof qui finit un cours à 17h un vendredi soir et dont la classe a été infernale, il ferme la porte en se disant j'espère qu'au moins ils auront appris quelque chose. Et je suis toujours pas toujours très confiant de mon écriture et j'ai toujours envie de dire dans ce livre, il faut pas qu'il y ait seulement une chronique sociale, intime, autobiographique, il faut aussi qu'on apprenne des choses.
Et elle est née comment, cette idée de faire cohabiter dans un même récit l'histoire des consoles de jeux de la fin des années 70-80 et votre histoire familiale à vous?
Comme il s'agissait d'une histoire de disparition, généralement, quand quelqu'un qui nous est cher disparaît d'une manière ou d'une autre, on cherche à se souvenir de ce qui nous a été légué par cette personne. Et si je devais être honnête, je dois bien reconnaître que la seule chose, le seul bien culturel que mon père m'ait jamais légué, c'est ça, c'est les jeux vidéo. Il m'a abandonné même à ces jeux vidéo, parce qu'il a cessé d'y jouer, mais c'est ce qui reste de lui. Et donc, j'avais envie de jalonner ce roman de cette histoire vidéoludique.
Et justement, qu'est-ce qu'elle raconte de la France et de la société des années 80, cette histoire de jeux vidéo et de consoles? Dans votre premier livre, l'histoire de la découverte du sida racontait une société bien particulière, homophobe, excluante. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-ci?
Selon moi, elle raconte le parachèvement d'une société de biens de consommation, d'une société des loisirs où on va investir des sommes vraiment conséquentes, notamment pour les gens de la classe moyenne, dans des machines qui ne servent à rien d'autre que s'amuser. Et en même temps, c'est une époque où l'avenir, le progrès technique est associé à des choses extrêmement positives. Et on voit bien aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, qu'on a un regard extrêmement critique et même méfiant sur ce progrès technique, ce qui n'était pas le cas dans ces années 80.
Longtemps, l'autofiction ou l'autobiographie, c'était considéré comme des sous-genres littéraires. Aujourd'hui, c'est un vrai phénomène. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul dans la rentrée littéraire actuelle à parler de votre famille. On peut citer Anne Berest avec Finistère ou Catherine Gérard qui interroge la vie d'un père potentiellement assassin, Georges Arnaud dans Une violentia veritas. Pourquoi, selon vous, ce genre, il plaît aujourd'hui? Pourquoi il marche?
C'est ma proposition, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que les gens lisent de moins en moins pour se divertir, mais ils lisent de plus en plus pour comprendre le monde et que peut-être ils sont de plus en plus intéressés par des expériences de vie, des gens qui nous racontent un monde social, un monde géographique, une expérience artistique, peu importe, mais qui va les permettre de réfléchir à leur propre place dans la société.
Vous avez déjà cité Didier Ribon, l'auteur de Retour à Reims, hein, qui explique qu'écrire la honte ne l'enlève pas. Certains membres de votre famille n'avaient pas très bien réagi à votre premier ouvrage. Ici, vous racontez un père absent, un père qui fuit. Comment ont réagi vos proches?
Alors cette fois, je ne l'ai même pas fait lire à mes proches, comme une sorte de nouveau caractère professionnel, parce que justement, les proches sont forcément dépossédés parce qu'ils deviennent le personnage de quelqu'un d'autre et ils n'ont pas voix au chapitre. Édouard Louis le fait, notamment dans l'histoire de la violence, il essaye de faire parler sa sœur, etc. Et c'est un enjeu narratif extrêmement complexe. Dans ma famille, ils sont très fiers de ce parcours d'écriture, mais je sais que ça leur coûte quelque chose.
Oui, vous prenez quand même un sacré risque.
Exactement, et ils ont une immense pudeur et un immense respect. J'ai l'impression de faire une grosse bêtise et en même temps ils se disent si ça lui fait plaisir, on le laisse le faire quoi.
On va feuilleter ensemble Jackie, votre prochain roman apparaît chez Grasset, mais d'abord un petit panorama de la culture. Ce sera après l'hommage de Philippe Catherine à Virginia Woolf dans Une chambre à moi, extrait de son album Zouzou.
Chambre à moi mais sans angle 3, un bouquet de mimosa, une grande table en bois, mais rien d'autre que ça, une chaise et un lit, des sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia, un piano, des feuilles, des crayons de bois, ma guitare Yamaha est vue sur la mer, dans un jardin plus vert qu'un ara illichère. Un ara illichère. C'est un perroquet tout vert, aussi vert que mon jardin, devant ma chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi, comme dit Virginia. Je pourrais jouer mon saxophone sans fatiguer personne. Je jouerais mon saxophone. Quand je joue mon saxophone, c'est pour personne. Quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue du saxophone. Quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue du saxophone. Quand je joue, c'est pour personne. Je voudrais une chambre à moi, mais sans angle 3. Un bouquet de mimosa, une grande table en bois. Et rien d'autre que ça, une chaise et un lit. Et sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia, un piano, des feuilles, des crayons de bois, ma guitare Yamaha est vue sur la mer, dans un jardin plus vert qu'un ara illichère. Je voudrais une chambre à moi.
Tous les jours à 18h35, le Mac de l'été passe en mode vigie culturelle, c'est le panorama.
Panneau.
Oui.
Obé.
Non, c'est panneau.
My style is ridiculous.
Vous entendez, les académiciens suffoquent. Le Cambridge Dictionary, référence mondiale de la langue anglaise, vient d'intégrer plus de 6212 nouveaux mots et expressions, souvent venus du réseau social TikTok. Alors attention, petit cours de langage jeunes, Anthony Passeron. Parmi eux, on trouve Tradwife, Skibidi, ce que vous venez d'entendre, ou Delulu. Tradwife pour Traditional Wife, qui désigne une femme au foyer qui revendique un rôle domestique traditionnel sur les réseaux, voire franchement réac. Hein. Skibidi est un terme né dans une vidéo virale qu'on entend d'ailleurs, hein, qui va rester dans la tête, utilisé à la fois pour dire cool, nul ou juste pour blaguer, donc c'est un mot qui n'a pas vraiment de sens. Et enfin, Delulu, abréviation de délusionnel, décrit comme quelqu'un qui se berce d'illusions par choix, souvent avec humour. Exemple, votre ado vous dit qu'il veut être pilote de ligne, alors que sa vie est moins bonne que celle d'une taupe. Il est Delulu. Bref, aujourd'hui, la langue se scrolle, et tant pis pour les profs de français. Reste dans les méandres de l'adolescence avec la recommandation culture du jour, un roman jeunesse qui sort demain en librairie. La journaliste Lucie Kosmala publie Craft Quest, joueuse d'élite. On y suit Lila, collégienne accro au jeu PC Craft Quest. Dans cet univers virtuel, elle s'est bâtie une réputation et des amitiés bien réelles jusqu'à être repérée pour une compétition. L'autrice met à l'honneur les joueuses, trop souvent invisibles, et traduit avec humour et inventivité le langage des discussions en ligne. Craft Quest tome 1 paraît demain chez Casterman, un roman à mettre entre toutes les mains d'ados, gamers ou non.
Je déclare officiellement l'hiver du Festival des Arts de la Rue.
Le Festival international de théâtre de rue d'Aurillac revient dès demain pendant 3 jours pour sa 38e édition. À l'honneur, le Brésil. Plus de 750 spectacles investiront les rues et places de la ville. Parmi les troupes les plus attendues, on retrouvera la compagnie Transexpress qui présentera sa nouvelle création ADN, le cirque inextrémiste qui défie la peur du vide avec Gap, ou une déambulation nocturne avec la compagnie Les Arzoseurs dans Croire aux Fauves, 4 jours de fête de cri poétique et de cri poétique et de joie collective made in Cantal.
Guys, j'ai découvert un jeu, c'est le seul jeu qui arrive à calmer mon anxiété en ce moment, il est trop mignon, regardez.
Ça s'appelle Tiny Bookshop et en gros t'es une librairie itinérante et tu te balades dans la ville pour aller vendre tes livres.
J'aime trop parce que tu peux vraiment conseiller des vrais livres, genre là, regardez.
Le mec là, il me demande une tragédie absolument déchirante et il a tendance à choisir des romans dont les personnages sont l'atout principal. Là, j'ai recommandé L'œil le plus bleu de Toni Morrison et il a kiffé.
Et tous les jours, tu dois refaire ton stock de livres dans ta librairie, genre là, j'ai pas beaucoup de drames, donc il faut que je rajoute des drames dans ma librairie et tout avant de passer à ma journée d'après quoi, pour vendre les meilleurs livres.
Trop mignon.
J'aime trop.com parce que c'est trop mignon.fr. En gros, t'as plein de petites quêtes à faire et tout, mais c'est sans pression.
Le gaming à l'honneur, notre invité oblige. On a voulu vous conseiller aujourd'hui Tiny Bookshop, un jeu vidéo qui vient de faire une entrée fracassante sur Nintendo Switch et qui déferle sur les réseaux sociaux. Ce petit jeu de librairie à l'ambiance apaisante a conquis les internautes. Les ventes en ligne ont explosé. Dans Tiny Bookshop, on l'a entendu, vous apprenez à gérer une mini librairie, à choisir chaque livre et à y glisser des petits mots. C'est aussi dispo sur PC et sur Mac et ça a fait naître une véritable communauté d'amoureux du livre en pixels. On est toujours avec vous, Anthony Passeron, pour votre nouveau livre Jackie. Alors, vous racontez dans ce livre aussi l'apprentissage d'une virilité, donc qui passe par les consoles de jeux, mais qui cogne aussi. Vous racontez que vous aviez honte de perdre pendant, enfin, au sport collectif imposé par vos parents. Vous aviez aussi honte avec votre frère jumeau de vous être pris une sacrée raclée dans les rues du village. Pourquoi c'était important de parler de cette quête de virilité?
C'est un thème qui n'était pas prévu au début dans le brouillon, mais c'est un thème qui m'a obsédé pendant l'écriture de ce livre, et je me suis rendu compte que la vraie blessure de ma vie, c'était pas tant d'avoir été abandonnée par mon père, c'était de penser que j'avais été abandonnée parce que je n'avais pas satisfait son attente de virilité. Et je me suis rendu compte que toutes ces scènes, elles sont revenues au moment de l'écriture de ce livre, et encore une fois, il y avait dans ce petit village-là, dans cette communauté assez restreinte, une certaine attente à l'endroit de la virilité à laquelle je ne répondais pas du tout.
Justement, on va parler de ce père. J'aimerais vous faire lire un extrait de ce livre où il est question de la figure paternelle. Anthony Passeron, allez-y.
Le dimanche après-midi, la plupart des pères s'occupaient de leur véhicule. Le mien consacrait du temps à l'entretien de sa vieille Golf. Il vérifiait d'abord la pression des pneus à l'aide d'un compresseur qu'il avait récupéré sur un réfrigérateur. Il se contorsionnait ensuite de longues minutes dans l'habitacle avec un aspirateur avant de recouvrir toute la carrosserie avec de l'eau savonneuse et de la frotter vigoureusement. Avec un tuyau d'arrosage, il rinçait enfin la voiture. L'eau claire la délivrait de la mousse crasseuse et laissait apparaître une Golf rutilante sur laquelle la lumière du soleil se reflétait. Au village, c'était principalement en cela que consistait le fait d'être père. Il fallait travailler toute la semaine et montrer qu'on ne s'abandonnait pas, même le week-end, qu'on ne se laissait pas aller à garer une voiture sale devant son foyer. Quand je parlais à mon père d'une famille voisine qui avait une voiture plus récente que la nôtre, il le prenait comme un affront à réparer. Amer, il me faisait remarquer avec tout son mépris que ceux dont je parlais avaient peut-être une belle voiture, mais qu'ils vivaient sans confort, entassés dans un minuscule appartement du HLM d'en face.
Merci Anthony Passeron.
De l'imagination d'Atari sont nés des jeux qui défient l'imagination des petits et des grands. Atari, les défis de l'imagination.
Nintendo, la nouvelle intelligence des jeux vidéo. Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant.
C'est moi, Maître Sega. Et ce petit excité, c'est Sonic. Lui, si tu le cherches, tu vas le trouver. Sega, c'est plus fort que toi.
Anthony Passeron, je vous ai vu frétiller et vous tenir le cœur en écoutant ce petit medley de pubs de consoles. Donc on a entendu une pub pour la NES en 86, une pub pour la Sega Mega Drive, évidemment, une pub pour l'Atari. On va parler de jeux vidéo, il est temps. En quoi la console, justement, Anthony Passeron, les consoles, elles vous aidaient aussi à gagner en virilité, à rentrer dans le groupe des garçons?
C'est a longtemps été un passe-temps, pas exclusivement, mais à dominance masculine, c'est vrai. D'ailleurs, la création de Pac-Man sur Atari 2600, ça naît d'un désir des Japonais d'attirer une communauté féminine autour du jeu, d'essayer de trouver autre chose que du tir, de la guerre spatiale, etc. C'était un endroit où je faisais communauté avec les autres garçons. Sur le terrain de foot, je valais rien, à la bagarre n'en parlons pas, etc. Mais si on me mettait une manette dans les mains, tout d'un coup, j'étais plus handicapé par un physique un peu frêle, par une sensibilité excessive. C'était aussi cet endroit où tout le monde avait sa chance. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si ce qu'on appelle les geeks, ou on appelait à l'époque les nerds, etc. C'était souvent des adolescents un peu mal dans leur basket, et tout d'un coup, trouver une compétence alors que dans tout le reste de la vie sociale, il n'en avait aucune.
Mais justement, aujourd'hui, en 2025, on associe encore les jeux vidéo parfois à certains faits divers violents. Ce discours, il reste omniprésent dans les médias et dans la politique. Vous, vous avez travaillé avec des ados. C'était une façon, en intégrant l'histoire de ces trois consoles, de donner enfin sa place à un objet culturel trop méprisé en faisant rentrer les consoles dans notre bibli.
Oui, c'est-à-dire que je ne voulais pas laisser mon patrimoine culturel à la porte d'une maison d'édition. Je ne voulais pas m'inventer une enfance pleine de livres, je ne voulais pas écrire un livre dans lequel j'aurais passé une nuit à contempler des œuvres dans un musée, etc. Je voulais dire que je voulais venir un peu comme j'étais, en fait. Je voulais assumer cet héritage culturel et effectivement, je voulais proposer en écriture, en littérature, de faire rentrer ce patrimoine-là et de le considérer comme un objet littéraire, comme un autre, ni plus ni moins.
Comment vous expliquez ce mépris toujours d'actualité pour cet énorme pan de notre culture ?
Je pense qu'il y a la dimension ludique qui est forcément dans l'imaginaire commun, quelque chose d'enfantin, de secondaire. Alors que, évidemment, si vous regardez les jeux vidéo, ils sont quand même à chaque fois des trésors de narration, de scénario, de réflexion, etc. Et ils peinent effectivement encore à gagner la place qui est la leur, qui devrait être la leur, pardon. Et effectivement, à chaque fait divers de violence, c'est plus facile pour une société d'interroger l'importance des jeux vidéo que de se regarder en face sur les conditions objectives de production d'une violence sociale.
Vous étiez prof, hein, vous faites un petit break là, mais vous étiez prof, donc vous travailliez avec des ados à l'époque. Ils vous parlaient de jeux vidéo, comment vous voyez leur consommation actuelle ? Est-ce qu'elle est similaire à la vôtre devant la Sega Mega Drive ?
Évidemment, à chaque fois que je parlais de mes consoles de jeux, ils me faisaient remarquer que c'était même plus du rétro gaming, quoi. Là, on était carrément dans la paléonto gaming, quoi. Je veux dire, évidemment. Mais par contre, j'aimais bien faire savoir mon intérêt pour ça, parce que ça me permettait de raccrocher certains d'entre eux quand on parlait du point de vue narratif d'un roman. Le point de vue interne, je leur disais, mais c'est exactement le concept de Doom. Vous êtes à la place du narrateur. C'est vous. Vous voyez de ses propres yeux. Et le point de vue externe, c'est Mario Bros. Vous voyez le personnage.
Et justement, dans votre livre, vous parlez d'une guerre, entre deux consoles, Nintendo, enfin deux boîtes, hein, Nintendo contre Sega. Pourquoi ce conflit, il passionne encore aujourd'hui et qu'est-ce qu'il raconte ?
Justement, il raconte l'affect qu'on mettait dans nos consoles de jeux. C'était des produits relativement chers, notamment pour la classe moyenne, donc on ne pouvait pas toutes les avoir. Et quand on choisissait une machine, on choisissait un camp avec certaines productions. La Sega Mega Drive qui était un peu plus austère, mais plus tournée vers les adolescents. La Super Nintendo qui était à la fois ado et enfant. Et ça nous faisait appartenir à deux clans, comme entre Blur et Oasis, comme entre deux clubs de foot. C'était exactement la même chose.
Vous n'aviez pas parié sur le bon cheval, non ?
Moi, j'ai eu la Sega Mega Drive, donc clairement, je faisais partie des losers. Mais si c'est comme Blur et Oasis, peut-être que les losers vont finir par gagner.
Parce que votre livre Fleurbon, les années 80, on a eu aussi envie de continuer notre voyage dans le passé et les pixels et de rendre les pixels bien visibles. On va vous présenter Hortense Boulay-Ifrène. Elle est chercheuse et elle explore des mondes virtuels abandonnés. On reprend après la pop éthérée de Kali Uchis dans Fall Apart sur France Inter.
I know you do.
Part de Kali Uchi, c'était un extrait de son 5e album Sincerely.
Le mag de l'été sur France Inter.
Pour ceux qui nous rejoignent, je suis toujours avec vous, Anthony Passeron, pour la sortie vendredi de votre livre Jackie, qui raconte votre père, mais aussi la naissance des premières consoles. On a voulu vous présenter une chercheuse, Hortense Boulay-Ifrène. Bonsoir.
Bonsoir, Constance.
Vos travaux portent sur ce que vous appelez les mondes virtuels en ruine, donc des jeux en ligne désertés par les utilisateurs, mais qui continuent d'exister, de vivre sur la toile. Alors, avant de plonger dans votre thèse, petit moment lexical, on parle de métaverse. On va parler de métaverse, alors on en a entendu beaucoup parler ces derniers temps avec Meta et un certain Mark Zuckerberg. Mais ça existait bien avant. C'est quoi un métaverse ? Comment le décrire simplement pour nos auditeurs ?
Alors, le plus simplement possible, j'espère. Alors, le mot métaverse vient d'un livre de science-fiction, Le Samouraï virtuel de Neil Stephenson. Et c'est un monde virtuel dans lequel des avatars en réseau, la plupart du temps c'est des avatars, mais on va dire des individus en réseau, construisent architecture, bâtissent au quotidien, et qui a la particularité d'être persistant, c'est-à-dire qu'une fois que l'on quitte le monde, il continue d'évoluer sans nous.
Justement, on peut prendre un exemple concret, j'en ai parlé dans mon introduction. Parlons de Second Life. Second Life, c'est quoi l'histoire de ce jeu en ligne ? C'était quoi son but ? Et c'est quoi son but ? Parce qu'il existe encore.
Oui, tout à fait. Alors, Second Life a vu le jour en 2003. Il appartient à une entreprise qui s'appelle Linden Lab et l'idée de Second Life, c'était de créer une sorte d'utopie virtuelle où en fait il serait possible de faire un peu ce qu'on veut. Vraiment, quand on voit au tout début, c'était vraiment juste un terrain vide qu'il a fallu remplir. Et disons que ce qu'on peut voir aujourd'hui, ça dépend évidemment des utilisatrices, mais voilà, quand on est un résident, on a souvent sa petite maison bien aménagée, qui ressemble un peu à des maisons de banlieue. Mais quand on est utilisateur et qu'on va dans Second Life, on a un peu l'impression que c'est des sortes de désert virtuel.
Oui, on parce peut qu'à se balader, un moment, on était jusqu'à 20 millions d'inscrits en 2013 et c'est passé à 1 million aujourd'hui, même un peu moins d'utilisateurs actifs, c'est ça ?
Effectivement.
Donc ça peut être complètement désert.
Exactement. On est loin de l'âge d'or de Second Life qui était à peu près en 2007.
Et ben justement, Hortense Boulay-Ifrène vous expliquait que ces mondes virtuels, ils existent encore, même quand les joueurs abandonne, mais pourtant des avatars continuent de flotter un peu dans le vide. C'est là que vous intervenez. Vous vous décrivez comme média archéologue. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, je me décris comme média archéologue. C'est un bien gros mot. Disons que je
très joli.
C'est vrai que c'est très beau. mais je m'inspire de ce qu'on appelle l'archéologie des médias. L'archéologie des médias, c'est pas l'archéologie disciplinaire comme on pourrait l'entendre, mais c'est l'archéologie de Michel Foucault. Bon, là, on va rentrer un peu dans la phase philosophie. Je vais essayer de faire le plus compréhensible possible, mais l'archéologie de Michel Foucault, l'archéologie du savoir, c'est l'idée que en fait il n'existe pas d'histoire linéaire, qu'il n'existe pas non plus d'histoire linéaire des médias, et qu'il faut aller chercher dans les oubliés, dans les à côté des médias, aller dénicher d'autres choses, je dirais. Mais moi, ce que j'aime bien faire, en fait, parce que j'ai un point de vue d'utilisatrice des mondes virtuels, j'ai pas un point de vue technicien. L'archéologie des médias s'inscrit énormément dans des questions de matérialité. J'en parle dans ma thèse de doctorat, mais c'est pas exactement ce que je fais profondément. Je fais plutôt de l'archéologie métaphorique, disons, parce que en fait, quand on utilise des mondes virtuels, on va utiliser des métaphores, la métaphore de l'habité, de la construction, de l'architecture, et quand on visite justement ces mondes virtuels abandonnés, et je suis pas la seule à utiliser ces termes-là, on utilise souvent la métaphore de l'archéologie, de la ruine, etc.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de consacrer une thèse à ce sujet ? Quel rapport vous entreteniez-vous avec le métaverse des années 2000 ?
Alors, je suis une génération web 2.0, un peu après Anthony Passeron. Donc, disons que j'ai passé énormément de temps dans les mondes virtuels quand j'étais enfant, ado. J'étais allée beaucoup sur Habbo Hotel, comme beaucoup d'adolescents de ma génération. J'avais plein de skyblogs différents. Bon, voilà. Aujourd'hui, skyblog n'existe plus, malheureusement.
On va en parler, ouais. Parce que justement, ouais, ça aussi, ça relève d'un monde, alors peut-être pas virtuel, c'est pas un métaverse, mais qui a disparu au point que Lina s'est donné pour rôle d'archiver chacun de ces blogs-là.
Tout à fait, Lina et la BNF conservent les skyblogs, parce que c'est une partie du patrimoine virtuel qui est extrêmement important, enfin notamment pour ma génération, je pense que.
Et donc c'est ça qui vous a donné envie, c'est que dans votre ADN, vous étiez tout le temps connecté à des mondes virtuels quand vous étiez plus jeune.
Ouais, exactement. Donc j'étais très connectée, j'allais beaucoup sur Internet, j'ai une grosse culture Internet. Je me fonde pas en disant ça, mais disons que je me suis toujours intéressée à la culture Internet. Et en fait, en 2018, je suis allée voir l'exposition Chris Marker, qui est un réalisateur de films, notamment à la Cinémathèque, et en fait elle ouvrait sur son île dans Second Life qui s'appelle L'Ouvroir, qu'elle a créé en 2008 avec l'artiste Max Moswitzer. Et c'est à ce moment-là qu'un retour de la mémoire de ces mondes que j'avais complètement oubliés est revenu, et c'est à partir de ce moment-là où je suis rentrée dans le trou de lapin, on va dire.
Anthony Passeron, vous êtes né en 83, alors vous étiez ado au balbutiement d'Internet. Vous entreteniez, vous, quel rapport avec le web ? Parce que vous parlez de consoles, de jeux vidéo, mais le web, c'était quoi pour vous quand vous étiez plus jeune ?
C'était d'abord un rapport de frustration, parce qu'à la campagne, on a eu Internet après mes camarades, et puis quand mes camarades ont eu le haut débit, moi je ne l'avais pas, etc. Et je me rappelle du ramdam médiatique autour de l'arrivée de Second Life, et je n'avais pas de connexion à haut débit, donc je ne suis jamais allée sur Second Life, j'avais l'impression de rater ma vie complètement. Me dire, mais donc tout le monde va réussir sa vie là-bas et moi je vais rester là dans mon petit arrière-pays niçois. Mais c'est, je me souviens en tout cas de cette espèce de moment où c'est arrivé. Et il y a eu une sorte d'immense espoir dans les possibilités. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ça ?
Bah justement, Hortense Boulay-Ifrane, vous insistez sur la dimension politique de ces mondes. Dès leur création dans les années 90, ils étaient portés par des idéologies. On sait que le web a été créé aussi dans une idéologie ultra-libertaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, je pense que la cyberculture, les mondes virtuels, sont issus, disons, de la rencontre de deux univers assez distincts et un peu étonnants, qui est d'une part les hippies issus de la contre-culture des années 60, avec l'idée de la communauté, les expérimentations avec des psychédéliques, etc. Et l'univers des yuppies, ce qu'on appelle les yuppies, c'est les young urban professionals, qui sont finalement les grandes villes de la Silicon Valley, avec quand même un grand idéal capitaliste et néolibéral. Et disons que cet idéal-là a vraiment influencé la création des mondes virtuels.
Vous avez documenté la fermeture d'Altspace VR, donc une plateforme sociale en réalité virtuelle, c'est ça, de Microsoft.
Oui.
Donc vous êtes connecté pendant les dernières heures de cet univers virtuel-là. Vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se passait,
ce crépuscule. Oui, c'est exactement ça. En plus, il y avait beaucoup d'événements de Altspace VR qui s'appelaient Crépuscule. En fait, j'ai passé du coup plus d'un mois dans cet univers univers virtuel-là. Au début, je faisais des photos. Ensuite, je passais à l'ordinateur. Enfin, je faisais des photos en réalité virtuelle au début, puis je passais à l'ordinateur pour pouvoir filmer beaucoup plus facilement. En fait, j'ai passé les 10 derniers jours avec des avatars, à filmer des décors, à les interviewer, à essayer de comprendre ce que ça représentait pour elles et eux. Jusqu'au dernier moment, tout le monde spéculait un peu la fin. Qu'est-ce qui va se passer? Comment? Enfin, c'est quoi? En fait, c'est assez fascinant de se demander comment ça se passe, la fermeture d'un serveur. Et en fait, sur Internet, on retrouve aussi beaucoup d'histoires autour de cette, autour de fermeture de serveur. Il y a un film de Jonathan Vinel et Caroline Poggi qui s'appelle It's the Night et qui raconte justement la fin d'un serveur, mais c'est une fiction, donc voilà, je vous invite à le regarder.
Merci beaucoup. Alors cette émission touche malheureusement à sa fin. Les vacances c'est bien, mais avec le bon livre, la bonne série, le bon podcast, c'est encore mieux. On met quoi dans la valise pour la dernière semaine de vacances? C'est le kit de survie culturelle. Anthony Passeron, le roman qui a marqué votre été 2025.
Moi, l'été, j'essaie de combler mes lacunes, donc je lis toujours un Duras, et là, je suis sur l'amant de la Chine du Nord. J'adore Duras, je sais pas vous dire mieux. Hortense, ça fait très bien au bord de la piscine.
Ok, bah très bien. Hortense Boulay-Ifrène, le métaverse à visiter une fois dans sa vie.
Je dirais Active Worlds parce que c'est un métavers qui est toujours visible aujourd'hui et que c'est un des métavers pionniers qui date de 1995.
Anthony Passeron, un texte sur les jeux vidéo qui vous a marqué?
Philosophie des jeux vidéo de Mathieu Triclot aux éditions de la Découverte. C'est extrêmement accessible et c'est passionnant.
Pourquoi?
Parce que ça nous aide à réfléchir les pensées qu'il y a derrière la construction des jeux vidéo, le contexte historique, etc. de manière très, très intuitive. C'est fluide et c'est génial.
Hortense Boulay-Ifrène, la bande originale de votre été 2025.
Moi, je voudrais dire Le bruit des vagues, mais on est à Paris. Non, je dirais Nature et découverte de Dan, qui est un groupe un peu post-internet, que je vous invite à écouter aussi.
Les différentes recommandations du kit sont à retrouver sur le site et l'appli Radio France, évidemment. Merci à tous les deux, Anthony Passeron, cours en librairie pour acheter votre livre publié chez Grasset. Il s'appelle Jackie, il sera parfait entre deux petites parties de gaming. Hortense Boulay-Ifrène, on retrouve vos travaux sur votre site internet. Vous intervenez aussi dans le dernier numéro de la revue Futur d'Ouzbek Erika, un article intitulé « Faut-il débrancher les métavers abandonnés ?» par Thibaut Prévost. Joyeux et joli fin de mois d'août à tous les deux. C'était le Mac de l'été avec Louise Tempero, Tarana Touré et Ibrahim Damani à la préparation de cette émission, Yann Ozaman à la réalisation assistée d'Amazir Amadein Guest et d'Étienne Kenel, et à la technique Rémi Sistiaga.